Cette compagnie, la Bonne Nouvelle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, parce qu'ils ne font pas de publicité dans les médias, dans les journaux, sur les ondes de radio, à la télévision. Pourtant, c'est une maison très sérieuse qui peut se vanter d'exister depuis environ 2000 ans. Incroyable, non ? Pour ma part, j'en ai entendu parler par l'intermédiaire d'une personne de ma belle famille. Vous savez, c'est un peu comme ces boîtes en plastique ou ces produits d'entretien ménager qu'on vend dans des réunions dans les maisons. Bon, finalement, ça m'a intéressée. Alors, je me suis dit que j'allais souscrire. Quand j'ai voulu souscrire ce contrat, c'est bizarre parce qu'on ne m'a proposé qu'une durée. Souvent, c'est un an renouvelable par tacite reconduction ou 5 ans, je ne sais quoi. Là, c'est embêtant. La durée, c'était l'éternité. Waouh ! C'est un peu long, non ? Bon, finalement, je me suis dit que ça m'éviterait de me poser des questions chaque année pour savoir si je devais renouveler mon contrat ou pas. Alors, j'ai accepté. Ensuite, pour que le contrat soit valide, il a bien sûr fallu que je donne mon nom. Nouvelle complication, Laurence Turquet, ça convenait pas. Il fallait que j'aie une identité qui convenait à la compagnie. Et en fait, on m'a fait comprendre que j'allais recevoir une nouvelle identité. C'est un peu comme sur votre carte d'identité. Vous trouvez d'abord votre nom, votre prénom. Alors, dans la vie qu'on me proposait, je devenais enfant de Dieu, enfant adoptif, bien-aimé de Dieu, ami de Dieu, ou encore fils ou fille de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Comme sur ma carte d'identité, il fallait une date de naissance et on m'expliquait que c'était le jour où je voulais bien accepter de changer de nom, de statut. Et puis, il fallait mon lieu de naissance. Et là, le lieu, c'était waouh, dans les lieux célestes. Loin, hein ? Et puis, on m'a expliqué que mon domicile, qui serait porté sur cette carte d'identité, c'était mon église locale. Et là, c'est comme dans la vraie vie, finalement. Ça dépendait de quelle église je fréquentais, mais on me disait pas que j'allais toujours dans la même église. Au gré de mes déménagements, je pourrais trouver un nouveau lieu où j'allais habiter. Et puis voilà, j'ai quand même accepté, avec cette identité, de signer ce contrat. Donc il fallait bien sûr définir la date des faits. Et là, la date des faits, c'était le jour où j'ai accepté cette nouvelle identité. Et enfin, un contrat d'assurance, il y a le montant de la prime dessus. Parce que si vous ne payez pas, vous n'êtes pas assuré. Donc je me demandais, avec toutes ces choses bizarres là, combien ça allait me coûter. Eh bien, figurez-vous que c'était gratuit. Il n'y avait rien à payer, rien du tout. Gratuit. G comme générosité. R comme rien. A comme amour, T comme trésor, U comme unique, I comme incomparable et T comme tout. Tout était garanti dans ce contrat. C'était définitivement et complètement gratuit. L'initiateur de cette compagnie d'assurance a déjà tout payé pour chacun de ceux qui veulent souscrire auprès de lui. Il a versé son propre sang pour ne plus rien demander à ceux qui voudraient le rejoindre. Vous l'avez bien compris, je n'ai pas fait d'erreur dans mes papiers. J'ai bien apporté ce qui nous était destiné pour ce culte de ce dimanche. Et vous allez être étonnés quand je vais vous proposer les textes que je voudrais lire ce matin, parce que ça va vous rappeler quelque chose que nous avons entendu dans notre moment de louange. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que cette méditation, ce temps de réflexion sur la parole de Dieu, je l'ai déjà partagée dans mon église de Lingolsheim, et c'était juste après les attentats du mois de novembre. Donc ça va peut-être aussi faire écho en vous si je vous le dis maintenant, après cet attentat à Nice. Alors, nous allons lire dans Romains au chapitre 8, les versets 35 à 39. Donc Romains au chapitre 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, le deuxième texte que je vous propose se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 28 à 30. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » J'ai beaucoup réfléchi sur le fait de l'assurance de notre salut. Et puis un jour, je me suis dit que ça serait bien de regarder ça de plus près. Alors dans ces textes, nous y trouvons des paroles qui nous remplissent d'assurance en ce qui concerne notre salut. Lorsque nous choisissons de demander pardon à Dieu pour nos péchés, lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur les promesses de la Bible. Il arrive que lorsqu'on pose la question à des chrétiens, « Pensez-vous possible d'avoir l'assurance du salut ?» Ils répondent « Non, ce n'est pas possible. C'est présomptueux de notre part. On le saura après la mort. » Ces personnes sont pleines de doutes parce qu'elles savent qu'elles commettent encore des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Elles conditionnent leur salut à leur propre capacité à devenir parfait. Frank Mangs, un pasteur suédois, traduit dans un carnet de Croire et Servir il y a bien des années, écrit pourtant ceci. « Si vous voulez apprendre à trouver l'assurance de votre salut, il faut apprendre à bâtir sur le fondement de Dieu. C'est donc le Sauveur lui-même, ressuscité et glorifié, qui est le fondement de votre bonheur éternel, et il est toujours le même. Quoi que vous pensiez, quels que soient vos sentiments, Jésus ne change pas. Il est le seul fondement inébranlable dans un monde rempli d'incertitudes, de changements incessants et d'angoisses. Sur ce fondement qui est plus sûr que le rocher, Dieu a placé ses promesses glorieuses. Elles sont aussi sûres que le fondement lui-même. Dieu tient ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait aussi. » Alors nous venons de lire dans Romains 8 et au verset 39, « Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Des obstacles possibles sont cités par l'apôtre Paul, la mort ou la vie, les anges ou les dominations. Mais tout est balayé par ce petit mot « rien ». Il ne faut même pas chercher quelque chose qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. En Jean 10, nous lisons que personne ne peut nous arracher de la main de Jésus ou de la main de son Père. nous pouvons être sûrs dès maintenant du salut et de la vie éternelle. Il n'y a là aucune présomption ni aucun doute possible. Toutefois, mon propos ce matin n'est pas de faire une étude approfondie de ces grandes vérités bibliques. Je n'en serais certainement pas capable, et puis le temps nous manquerait sans doute. Je voudrais partager trois pensées qui me sont venues à l'esprit en réfléchissant à ce thème de l'assurance du salut. Nous venons de parler de la première, l'assurance, la certitude d'être sauvé. En second lieu, j'ai eu envie de réfléchir à ce sujet, donc bien avant les événements terribles, aussi bien en France qu'à l'étranger, qui ont eu lieu les derniers mois, la dernière année. Lorsque j'ai relu les passages choisis, j'ai vu combien ils étaient d'une criante actualité. C'est vrai, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu pour asseoir nos certitudes. Mais en même temps, notre Père Céleste a parfois des propositions bien surprenantes à nous soumettre. J'aurais tout aussi bien pu parler de l'assurance du salut à l'aide d'un verset d'Éphésiens. Par exemple, Éphésiens 1:7 qui nous dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. » C'est clair, net, précis. Dieu ne dit pas « Nous serons délivrés » ou « Nous recevrons le pardon de nos péchés » ou « Nous pourrions recevoir le pardon de nos fautes ». Non, tout est au présent, témoignant d'une réelle certitude. Mais les textes qui m'ont interpellée parlent de mort, de puissance, de domination. Il parle de mise à mort, de persécution, de danger ou d'épée. Et je dois admettre que c'est pour moi un très grand encouragement à ne pas craindre le monde qui nous entoure. Je ne souhaite pas disparaître dans un attentat et je pense qu'aucun de nous ne le souhaite. Mais je puise dans ces passages l'assurance de n'avoir rien à craindre. J'aimerais pouvoir communiquer à chacun de vous cette même certitude, et ma prière est que cela puisse trouver un écho en vous. Et en même temps, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les personnes qui ont péri récemment et qui ne connaissaient pas Dieu. Et il n'y a pas que des personnes disparues lors des attentats récents. Il y a, rappelez-vous, les victimes de ce terrible accident de car dans le sud-ouest de la France il y a quelques mois. Il y a les victimes de l'accident du TGV qui a eu lieu en Alsace cet automne lors des essais. Il y a toutes ces personnes qui sont victimes d'accidents autoroutiers, par exemple les jeunes en sortant de boîte de nuit alors qu'ils ont peut-être un peu trop bu, et bien d'autres encore. Notre cœur ne peut pas rester indifférent aux besoins spirituels de tant de personnes. Oui, l'assurance d'être sauvée, c'est pour moi, je la connais. Mais je dois aussi la partager avec d'autres avant qu'ils ne meurent loin de Dieu. Et justement, en dernier lieu, j'aimerais voir le mot assurance dans le sens d'oser, être assuré, avoir de l'assurance. Puisque nous sommes certains de notre salut, alors nous sommes des personnes sûres d'elles, qui veulent entreprendre. Bien loin de nous faire peur, les terroristes peuvent au contraire nous pousser à redoubler d'ardeur pour témoigner. Pourtant, nous sommes parfois tentés de baisser nos voix parce que nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver, peur de souffrir. On a aussi la culture ambiante qui nous dit qu'on ne doit pas faire de vagues, on n'a pas le droit de dire ceci, cela. À ce titre, les livres du CNEF... Le droit de dire, je crois, sont bien pour nous donner des encouragements. J'ai le droit de parler, de dire ma foi, d'exprimer ma foi dans telles circonstances, bien qu'on voudrait me faire croire que non, il faut que je me taise. Donc si vous ne les avez pas encore lus, je vous encourage à les lire. Nous connaissons le témoignage d'hommes et de femmes qui n'ont pas cédé à la persécution, mais ont continué à témoigner de l'amour de Dieu. Ces personnes n'étaient pas portées par leur arrogance ou leur suffisance. Pourtant, c'est aussi ce qui arrive parfois à des personnes pleines d'assurance. Elles s'appuient sur leur richesse ou leur savoir pour oser avancer dans la vie, pour écraser un peu les autres. Au contraire, les enfants de Dieu qui osent continuent à annoncer la bonne nouvelle malgré les circonstances et s'appuient sur les forces que Dieu leur donne. Nous connaissons tous ce verset, 2 Timothée 1:7 qui nous dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend fort, aimant et réfléchi. Je suis sûre que vous le connaissez mieux dans une autre traduction qui nous dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Pourtant, cette traduction avec « Ce n'est pas... » Attendez, je retrouve la phrase. « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches... » Ce mot « lâche » m'a quand même interpellée en lisant ce verset dans cette traduction. Est-ce que parfois je ne suis pas lâche ? Donc nous n'avons pas besoin de craindre de déranger par nos convictions et notre désir de les partager. Celui qui parfois voudrait nous faire taire est sans doute celui qui a le plus besoin de nous entendre. Cette petite histoire que j'ai trouvée l'illustre bien. William Burton, missionnaire au Zaïre, raconte ce qui s'est passé lorsqu'il reçut l'hospitalité dans un village de brousse. Cette nuit-là, il fut longtemps éveillé par de furieux aboiements. Il essaya bien de faire taire les chiens importuns, mais ce fut en vain. Le lendemain, comme il se plaignait aux villageois d'avoir été dérangé dans son sommeil, il apprit que des lions avaient voulu entrer dans le village. Leurs traces se voyaient jusqu'aux abords de la case où il avait dormi. Quelque temps plus tard, en racontant cet incident, William ajoutait « Les chiens avaient fait de leur mieux pour nous avertir du danger, et moi, comme un insensé, j'essayais de les faire taire. Ainsi, ceux-là même qui nous reprochent de parler de l'enfer nous remercierons peut-être un jour de notre importunité. Continuons donc à avertir. » En conclusion, réfléchir sur l'assurance du salut m'amène à lever la tête et regarder vers celui qui en est l'auteur pour le remercier et le louer sans cesse pour son si grand amour. Cela m'amène à reconnaître ma faiblesse et mon peu d'audace pour parler de lui. Regarder à nouveau vers Dieu me permet de voir qu'il me donne la force, l'assurance pour oser et pour témoigner en oubliant mes propres peurs. Il ne me reste plus que deux éléments à considérer à propos de mon contrat d'assurance. Dans ce genre de document, il y a toujours des petites lignes que l'on voit à peine et qui vous excluent de beaucoup de risques. Dans mon contrat spécial, j'ai trouvé que tout était écrit en grosses lettres et qu'il y a beaucoup d'explications pour comprendre toutes les situations. Mais je n'ai pas trouvé de point qui m'exclurait délibérément du contrat. Et pourtant, le texte est long. À la fin, la dernière action à accomplir restait à poser ma signature au bas du contrat. Comme vous l'avez vu auparavant, je l'ai fait en 78. Et le chant qui a été choisi ce matin « Reçois ma vie comme une adoration » m'y a encore fait penser. Je remercie Dieu de m'avoir fait à nouveau réfléchir à tout cela ces derniers temps. Alors qu'en est-il pour vous ?